Henri Poincaré, La science et l'hypothèse, introduction. Pour un observateur superficiel, la vérité scientifique est hors des atteintes du doute. La logique de la science est infaillible, et si les savants se trompent quelquefois, c'est pour en avoir méconnu les règles. Les vérités mathématiques dérivent d'un petit nombre de propositions évidentes par une chaîne de raisonnement impeccable. Elles s'imposent non seulement à nous, mais à la nature même. Elles enchaînent, pour ainsi dire, le Créateur et lui permettent seulement de choisir entre quelques solutions relativement peu nombreuses. Il suffira alors de quelques expériences pour nous faire savoir quel choix il a fait. De chaque expérience, une foule de conséquences pourront sortir par une série de déductions mathématiques. Et c'est ainsi que chacune d'elles nous fera connaître un coin de l'univers. Voilà quelle est, pour bien des gens du monde, pour les lycéens qui reçoivent les premières notions de physique, l'origine de la certitude scientifique. Voilà comment ils comprennent le rôle de l'expérimentation et des mathématiques. C'est ainsi également que le comprenaient, il y a 100 ans, beaucoup de savants qui rêvaient de construire le monde en empruntant à l'expérience aussi peu de matériaux que possible. Quand on a un peu plus réfléchi, on a aperçu la place tenue par l'hypothèse. On a vu que le mathématicien ne saurait s'en passer et que l'expérimentateur ne s'en passe pas davantage. Et alors, on s'est demandé si toutes ces constructions étaient bien solides, et on a cru qu'un souffle aller les abattre. Être sceptique de cette façon, c'est encore être superficiel. Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes qui, l'une et l'autre, nous dispensent de réfléchir. Au lieu de prononcer une condamnation sommaire, nous devons donc examiner avec soin le rôle de l'hypothèse. Nous reconnaîtrons alors non seulement qu'il est nécessaire, mais que le plus souvent il est légitime. Nous verrons aussi qu'il y a plusieurs sortes d'hypothèses, que les unes sont vérifiables, et qu'une fois confirmées par l'expérience, elles deviennent des vérités fécondes, que les autres, sans pouvoir nous induire en erreur, peuvent nous être utiles en fixant notre pensée, que d'autres, enfin, ne sont des hypothèses qu'en apparence, et se réduisent à des définitions ou à des conventions déguisées. Ces dernières se rencontrent surtout dans les mathématiques et dans les sciences qui y touchent. C'est justement de là que ces sciences tirent leur rigueur. Ces conventions sont l'œuvre de la libre activité de notre esprit, qui, dans ce domaine, ne reconnaît pas d'obstacle. Là, notre esprit peut affirmer parce qu'il décrète. Mais entendons-nous, ces décrets s'imposent à notre science qui, sans eux, serait impossible. Ils ne s'imposent pas à la nature. Ces décrets, pourtant, sont-ils arbitraires? Non. Sans cela, ils seraient stériles. L'expérience nous laisse notre libre choix, mais elle le guide en nous aidant à discerner le chemin le plus commode. Nos décrets sont donc comme ceux d'un prince absolu, mais qui consulterait son conseil d'État. Quelques personnes ont été frappées de ce caractère de libre convention qu'on reconnaît dans certains principes fondamentaux des sciences. Elles ont voulu généraliser outre mesure, et en même temps elles ont oublié que la liberté n'est pas l'arbitraire. Elles ont abouti ainsi à ce que l'on appelle le nominalisme, et elles se sont demandé si le savant n'est pas dupe de ces définitions, et si le monde qu'il croit découvrir n'est pas tout simplement créé par son caprice. Dans ces conditions, la science serait certaine, mais dépourvue de portée. S'il en était ainsi, la science serait impuissante. Or, nous la voyons chaque jour agir sous nos yeux. Cela ne pourrait être si elle ne nous faisait connaître quelque chose de la réalité. Mais ce qu'elle peut atteindre, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, comme le pensent les dogmatistes naïfs. Ce sont seulement les rapports entre les choses. En dehors de ces rapports, il n'y a pas de réalité connaissable. Telle est la conclusion à laquelle nous parviendrons. Mais pour cela, il nous faudra parcourir la série des sciences depuis l'arithmétique et la géométrie jusqu'à la mécanique et à la physique expérimentale. Quelle est la nature du raisonnement mathématique? Est-il réellement déductif, comme on le croit d'ordinaire? Une analyse approfondie nous montre qu'il n'en est rien, qu'il participe dans une certaine mesure de la nature du raisonnement inductif, et que c'est par là qu'il est fécond. Il n'en conserve pas moins son caractère de rigueur absolue. C'est ce que nous avions d'abord à montrer. Connaissant mieux maintenant l'un des instruments que les mathématiques mettent entre les mains du chercheur, nous avions à analyser une autre notion fondamentale, celle de la grandeur mathématique. La trouvons-nous dans la nature? Ou est-ce nous qui l'y introduisons? Et, dans ce dernier cas, ne risquons-nous pas de tout fausser? Comparant les données brutes de nos sens et ce concept extrêmement complexe et subtil que les mathématiciens appellent « grandeur », nous sommes bien forcés de reconnaître une divergence. Ce cadre où nous voulons tout faire rentrer, c'est donc nous qui l'avons fait. Mais nous ne l'avons pas fait au hasard. Nous l'avons fait, pour ainsi dire, sur mesure, et c'est pour cela que nous pouvons y faire rentrer les faits, sans dénaturer ce qu'ils ont d'essentiel. Un autre cadre que nous imposons au monde, c'est l'espace. D'où viennent les premiers principes de la géométrie? Nous sont-ils imposés par la logique? Lobachevsky a montré que non, en créant les géométries non euclidiennes. L'espace nous est-il révélé par nos sens? Non encore, car celui que nos sens pourraient nous montrer diffère absolument de celui du géomètre. La géométrie dérive-t-elle de l'expérience? Une discussion approfondie nous montrera que non. Nous conclurons donc que ces principes ne sont que des conventions. Mais ces conventions ne sont pas arbitraires et transportées dans un autre monde, que j'appelle le monde non euclidien, et que je cherche à imaginer, nous aurions été amenés à en adopter d'autres. En mécanique, nous serions conduits à des conclusions analogues, et nous verrions que les principes de cette science, quoique plus directement appuyés sur l'expérience, participent encore du caractère conventionnel des postulats géométriques. Jusqu'ici, le nominalisme triomphe. Mais nous arrivons aux sciences physiques proprement dite. Ici, la scène change. Nous rencontrons une autre sorte d'hypothèse et nous en voyons toute la fécondité. Sans doute, au premier abord, les théories nous semblent fragiles et l'histoire de la science nous prouve qu'elles sont éphémères. Elles ne meurent pas tout entières pourtant. Et de chacune d'elles, il reste quelque chose. C'est ce quelque chose qu'il faut chercher à démêler. Parce que c'est là, et là seulement, qu'est la véritable réalité. La méthode des sciences physiques repose sur l'induction qui nous fait attendre la répétition d'un phénomène quand se reproduisent des circonstances où il avait une première fois pris naissance. Si toutes ces circonstances pouvaient se reproduire à la fois, ce principe pourrait être appliqué sans crainte. Mais cela n'arrivera jamais. Quelques-unes de ces circonstances feront toujours défaut. Sommes-nous absolument sûrs qu'elles sont sans importance? Évidemment non. Cela pourra être vraisemblable, cela ne pourra pas être rigoureusement certain. De là le rôle considérable que joue dans les sciences physiques la notion de probabilité. Le calcul des probabilités n'est donc pas seulement une récréation ou un guide pour les joueurs de baccarat, et nous devons chercher à en approfondir les principes. Sous ce rapport, je n'ai pu donner que des résultats bien incomplets. Tant ce vague instinct qui nous fait discerner la vraisemblance est rebelle à l'analyse. Après avoir étudié les conditions dans lesquelles travaille le physicien, j'ai cru qu'il fallait le montrer à l'œuvre. Pour cela, j'ai pris quelques exemples dans l'histoire de l'optique et dans celle de l'électricité. Nous verrons d'où sont sorties les idées de Fresnel, celles de Maxwell, et quelles hypothèses inconscientes faisaient Ampère et les autres fondateurs de l'électrodynamique.